Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Considérations inactuelles. Je suis Lloyd Andy Oyenamono et avec mon amie Anne-Caroline Close-Verdreau, nous allons essayer de comprendre dans ce premier épisode intitulé Le regard, les féministes contre Balthus, l'une des controverses les plus persistantes de l'histoire de l'art. C'est à la suite de la lecture d'un article datant de 2017 sur une pétition demandant le retrait de certaines œuvres d'une exposition au MoMA de New York que l'œuvre de Balthus a commencé à m'intéresser. Le sujet est devenu encore plus passionnant au regard des débats contemporains sur les violences sexistes et sexuelles et des questions éthiques que ceci soulève, notamment dans le monde de l'art et de la culture. Qui est Balthus? Balthus, nous dit Antonin Artaud, reprend le monde à partir des apparences. Il accepte les données des sens, il accepte celles de la raison. Il les accepte, mais les réforme. Je dirais encore mieux qu'il les refond. Balthus est un peintre français, né dans une famille aristocratique d'origine russo-polonaise. Ses parents étaient peintres et son frère Pierre Klosowski, écrivain et dessinateur. Il est né en 1908. Et il est mort en 2001. Il a grandi dans un environnement d'artistes. Pierre Bonnard et le poète Rilke étaient notamment des intimes de sa famille. Parmi ses influences, on compte Gustave Courbet, Piero della Francesca, Nicolas Poussin. Et c'est un peintre qu'on pourrait considéré comme précoce, puisque très tôt, il s'intéresse à la peinture et au dessin, et à 11 ans, il publie Mitsu, sa première œuvre préfacée par Rilke. Il sera un ami intime d'Alberto Giacometti et d'André Derain. Dans les années 30, il s'installe à Paris et épouse en première noces Antoinette de Watteville, avec laquelle il aura deux enfants. En 1961, il dirigera l'Académie de France à la Villa Médicis, à Rome, sur une proposition d'André Malraux. Et un an plus tard, il rencontra celle qui deviendra sa seconde épouse, Setsuko, lors d'une visite au Japon, avec laquelle il aura une fille. Pourquoi nous avons décidé de parler de l'œuvre de Balthus et de croiser son œuvre au regard féministe. Parce que Balthus, depuis les années 30, depuis le début de sa carrière, c'est un peintre qui interroge, qui bouscule, qui dérange, qui révèle aux spectateurs des pulsions, une vision du monde, quelque chose qui, du tout début de sa carrière jusqu'à notre époque, continue d'interroger, de déranger, de nous mettre face à ce qu'on a de plus inconscient. Et donc, on a pensé que c'était intéressant d'en discuter. Ce qu'il faut noter déjà dans un premier temps, c'est que Balthus s'inscrit dans un courant artistique qu'on appelle l'art figuratif et dont l'objet est simplement la représentation du visible. Il le revendique et il se revendique comme étant un peintre qui n'a pour objet que de révéler la beauté. Il n'a pas a priori selon ses propres dires, l'envie, ni le besoin, ni l'intention de inscrire son art, ses œuvres dans un courant de pensée ou d'y exposer ses propres opinions ou ses idées. Et pourtant, ces œuvres font polémique parce que justement, elles portent en elles des idées, des conceptions du monde. C'est la raison pour laquelle on souhaite avec Anne discuter de cette question aujourd'hui. En préparant cette émission, Anne, tu as lu la correspondance de Balthus, notamment celle du tout début avec sa première épouse, Antoinette de Watteville. Selon toi, quelle conception, vision de l'art Balthus fait sienne?
Alors effectivement, la conception de l'art qu'avait Balthus est telle que pour lui, la finalité de l'art, c'est de révéler la beauté de la nature. C'est-à-dire que pour lui, il y a dans la nature quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, qu'il s'agit de révéler au monde. Et d'où d'ailleurs son besoin de peindre toujours d'après nature. Il ne peint pas uniquement à partir de son imagination, mais toujours d'après des modèles. Et d'ailleurs, cela rejoint la conception de l'art par le philosophe Henri Bergson, pour qui l'objet de l'art, c'est la révélation de la nature. Et j'ajouterais que pour Balthus, qui se présentait comme quelqu'un de très religieux, de catholique pratiquant, peindre était pour lui une façon de prier. Autrement dit, pour lui, un tableau ou une prière, c'était la même chose. Et pour lui, peindre, c'était une voie, pour accéder au mystère de Dieu. Alors là, ce que je viens de dire, pour information, c'est tiré des Mémoires de Balthus, livre de l'écrivain Alain Vircondelet, qui a recueilli, disons, les dernières paroles de Balthus. Alors ensuite, il y a cette idée a priori qu'il y aurait une idée universelle de ce qui est beau, que ce n'est pas ce que lui, Balthus, subjectivement trouverait beau, mais ce qui universellement serait beau. Et l'idée que cette beauté universelle, eh bien, il se donne pour mission d'en révéler le secret au monde. Mais alors, effectivement, pour répondre à ce que tu disais, Lloyd, on voit qu'au travers de ses toiles, il s'intéresse clairement davantage aux petites filles ou aux adolescentes plutôt qu'aux femmes adultes. Donc, effectivement, ce qui le fascine, ce qu'il trouve beau, c'est ce moment de cette période de métamorphose, ce passage de l'enfance à l'âge adulte, cette période qui est pleine d'ambiguïté, de confusion, qui est pleine aussi d'incertitude, d'incomplétude, cette période de la vie où s'affrontent, où se confrontent de manière particulièrement aiguë pulsion de vie et pulsion de mort. Période de métamorphose le fascine, et d'ailleurs elle a inspiré de nombreux artistes. Hein. On retrouve, juste pour ne citer qu'un exemple, on retrouve aussi cette tension, pulsion de vie, pulsion de mort, dans le quatuor à cordes numéro 14 de Schubert qui s'appelle La jeune fille et la mort. Et alors, cette période de métamorphose, donc comme je le disais, a inspiré de nombreux artistes, et pour Balthus, elle est fascinante au sens où aussi elle cristallise et elle symbolise aussi tous les moments de passage, de bascule qui sont susceptibles de se produire au cours d'une vie. Voilà. Mais revenons à Balthus et à sa fascination pour les adolescentes précisément. Alors lui, il s'explique en ces termes. Il dit, je vois les adolescentes comme un symbole, je ne pourrais jamais peindre une femme. La beauté de l'adolescente est plus intéressante. L'adolescence incarne l'avenir, l'être avant qu'il ne se transforme en beauté parfaite. Il ajoute, une femme a déjà trouvé sa place dans le monde, une adolescente non. Le corps d'une femme est déjà complet, le mystère a disparu. Voilà. Alors, certes, il est fasciné donc par ce moment de bascule, de déséquilibre qui est incarné par l'adolescence, et donc voilà, d'où le fait que ces modèles soient si jeunes, soient disons à peine formés. Mais on peut s'interroger quand même sur le choix qui est toujours très similaire de ces modèles. Disons qu'il y a toujours un peu le même type de jeune fille. Il ne représente jamais, par exemple, le côté potentiellement âge ingrat de l'adolescence. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre, me semble-t-il, d'un idéal de beauté, selon lui, ou du moins quelque chose de l'ordre d'une icône.
Alors moi, je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de soulever, puisque comme tu l'as dit en citant Bergson, l'objet de l'art, c'est de révéler la beauté dans la nature. On peut aussi s'interroger sur le parti pris qui, pour le coup, est celui de l'auteur, ici le peintre, c'est celui du sujet. Et dans le cas de Balthus, ce qui est souvent mis en avant comme problématique, ce qui est souvent interrogé, c'est la représentation de la jeune fille ou de la jeune femme, parfois très jeune fille, dans ses œuvres. Et autant la beauté est disponible dans la nature, autant il y a quand même un parti pris d'un point de vue du sujet, de ce qu'on va, on va choisir de représenter et de comment on va choisir de le représenter. Et c'est aussi ça qui pose question, parce que dans, dans l'art ou dans l'histoire de l'art, c'est pas le premier et c'est pas le dernier qui est représenté une jeune femme ou une jeune fille. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ces jeunes filles à lui posent question, trouble, interroge. Cela trouble d'autant plus que Balthus est un peintre qui se revendique de Courbet et de Ingres, deux peintres qui, à leur époque, ont également imposé de nouveaux canons de beauté. Dans le cas de Ingres, c'est en s'éloignant d'une forme de vérité anatomique pour épouser des formes assez démesurées pour représenter la sensualité d'une femme. C'est notamment ce qui est reconnu dans sa très célèbre Odalisque. Et pour Gustave Courbet, c'est un canon de beauté d'une femme bien en chair, avec des toiles telles que Femme nue couchée, Baigneuse ou La source. Alors, on se demande, Balthus, qui se réclame de Courbet et de Ingres, ces deux peintres qu'il a énormément étudiés et copiés, pourquoi son idéal de beauté à lui est assez éloigné de ces inspirations-là? C'est bien qu'il y a quelque chose qui lui est propre, et à mon avis, c'est le sujet qu'il choisit de représenter.
Alors oui, effectivement, hein, contrairement aux peintres Ingres ou Courbet, qui eux peignaient des femmes, disons, complètes, Balthus, lui, disait vouloir peindre des anges. Il disait considérer ces jeunes filles qu'il peignait comme étant des anges, des êtres d'un autre monde, finalement. Et il se montrait très en colère contre ce qu'il considérait comme étant des interprétations stupides de son travail. Interprétations qui prétendent que ces jeunes filles proviennent d'une imagination érotique. Et précisément, donc, Balthus réfute cette interprétation. Ceci dit, ces jeunes filles, soi-disant donc jeunes filles angéliques, innocentes, pures, d'un autre monde, d'une part, ces jeunes filles, elles étaient de vraies jeunes filles, en chair et en os, et puis d'autre part, les représentations qui en sont faites, elles choquent étant donné les poses qu'il leur fait prendre, qui sont assez suggestives, ambiguës, notamment, je pense ici au tableau Thérèse Rêvant. Pour l'histoire, donc, cette jeune fille qui est représentée sur ce tableau, elle s'appelait Thérèse Blanchard, c'était l'une de ses modèles préférés. Alors, on sait assez peu de choses d'elle, hein, comme d'ailleurs des autres modèles, même si pour certains modèles, on a un peu plus de précision. Mais voilà, effectivement, il y a certains tableaux qui effectivement représentent ces jeunes filles en partie ou totalement dénudées, et où on aperçoit notamment leurs entrejambes, leurs dessous, etc. Ce tableau de Thérèse Rêvant que je mentionnais à l'instant, il me fait d'ailleurs penser à cette polémique survenue en 2018 où il y a eu effectivement cette pétition qui a été lancée par, par une féministe suite à une exposition de Balthus au MoMA de New York. Et effectivement, cette pétition, elle demandait soit de décrocher le tableau Thérèse Révan, soit au moins de rajouter un écriteau à côté pour le contextualiser, pour préciser justement que ce tableau pouvait choquer pour diverses raisons, etc. Et cette demande a été refusée par le musée. Alors, plus largement, si on se replace dans la mission actuelle de l'art, on n'est plus aujourd'hui dans cette idée que l'objectif de l'art soit de révéler le beau, mais davantage depuis une vingtaine d'années dans cette idée que la finalité de l'art doit être le bien. Et en tout cas, c'est une idée qui est quand même assez présente et qui se traduit par le fait que l'art aujourd'hui se doit de défendre une cause, que ce soit notamment la cause féministe, la cause écologiste, la cause des migrants. Et ce phénomène, il est d'ailleurs très bien décrit par la philosophe Carole Talon-Hugon, qui a écrit un livre récemment qui s'intitule « L'art sous contrôle ». Et elle décrit très bien dans ce livre ce mouvement-là depuis une vingtaine d'années en France où effectivement on n'est plus dans cette figure de l'artiste transgressif, révolté, mais davantage un artiste qui se doit d'être engagé pour une cause, qui se doit d'être un personnage intègre, moral. Voilà, donc on n'est plus dans cette idée de l'art pour l'art. Et ça aussi, je pense qu'il faut en tenir compte dans le regard qu'on porte aujourd'hui sur l'œuvre de Balthus. Parce qu'effectivement, lui, Balthus, quelle cause est-ce qu'il défend ? Il ne défend pas de cause au sens d'une cause politique engagée dans le monde. Mais il plane en quelque sorte au-dessus du monde. D'ailleurs, sa première femme, Antoinette de Watteville, dans une lettre qu'elle adresse à son frère, elle dit qu'on a l'impression que Balthus plane constamment au-dessus du sol. Et disons que dans la conception ambiante et actuelle de l'art, cette dimension ou cette quête chez Balthus, cette quête, disons, intemporelle ou atemporelle, elle pose question.
Je rajouterais à ce que tu viens de dire qu'on pourrait se demander si finalement, dans la grande histoire de l'art, il n'y a pas une dialectique permanente entre l'éthique du spectateur et l'œuvre d'art dans son autonomie. Je le dis parce que finalement, il y a toujours eu des artistes qui transgressent la morale. Il y a toujours eu des œuvres qui ont scandalisé à toutes les époques. Mais pour en revenir à Carole Talon-Hugon, ce que je trouve intéressant dans son propos, c'est le fait qu'elle évoque l'idée que le courant moralisateur dans l'art, il a toujours existé et que peut-être la période où l'art se suffisait à lui-même est une exception. Une exception que nous avons pris pour un acquis, mais qui n'était qu'une parenthèse. Quelque part, le retour du courant moralisateur est un retour au cours normal des choses, à la conception qui a perduré pendant très longtemps. À ce propos, le philosophe Marcus Gabriel défend l'idée que l'œuvre d'art est radicalement autonome et que la perception dans l'art est toujours une relation triangulaire selon le modèle suivant. L'objet perçu apparaît à un percevant sous la forme d'une illusion perceptuelle. Ce qui veut dire, selon lui, que l'interprétation finalement n'est jamais conforme à la réalité, ni de ce que l'auteur veut dire ou montrer, ni conforme à ce que l'œuvre d'art elle-même représente. C'est toujours un rapport, comme une forme de communication entre nous et ce qu'on voit. Et cette illusion perceptuelle, quelque part, elle est toujours porteuse de notre vision du monde, de ce qui nous habite et qu'on projette sur l'œuvre. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que par rapport à la question de Balthus, finalement, quand on crie au scandale à la pédophilie, peut-être que c'est pas exactement ce que lui montre, Et ce n'est pas exactement ce que l'œuvre montre, c'est quelque part notre interaction avec l'œuvre qui nous emmène à y voir de la pédophilie.
Alors c'est une interprétation effectivement très intéressante. Ce que je voulais faire là, c'était rebondir sur ce que tu disais juste avant et sur ce que explique Carole Talon-Hugon. Finalement, cette période où l'art n'était plus soumis à la morale ou à l'éthique. Donc où l'art était autonome. En fait, c'est une période qui a duré très peu de temps, disons de la fin du 18e jusqu'à la fin du 20e. Voilà. Et donc pendant cette période-là, l'art s'est autonomisé de la morale, disons qu'il n'avait plus besoin de répondre à des buts éthiques ou moraux, alors que précédemment, il avait pour visée d'amener l'humanité à se moraliser. Effectivement, là, on note un retour à ce courant moralisateur, et c'est un peu ce qu'elle explique. C'est pas exactement un retour à ce qui se passait avant, puisque avant, lorsque des œuvres d'art étaient censurées, c'était l'État qui censurait. Il y avait des procès, etc. Aujourd'hui, c'est plus tellement ça. La censure, elle va plutôt passer par des communautés, des groupes. Notamment la communauté féministe hein, qui va lancer par exemple un mouvement pour s'opposer à tel ou tel artiste, peintre, telle ou telle œuvre. Finalement, tout se passe essentiellement par des réseaux sociaux, mais pas devant un tribunal.
Cette conclusion m'interroge, car indépendamment du cas de Balthus, je me demande si les dénonciations ne sont pas une forme d'appel à une censure plus officielle. Ce point nous mène directement à la question des représentations, parce que pour beaucoup de gens à notre époque, certaines représentations sont inconcevables, insupportables. Et donc le fait que ces œuvres aient été réalisées par le passé ne justifie pas qu'elles soient toujours montrées, exposées, et donc que ces représentations soient toujours en quelque sorte entretenues. Pour ma part, c'est là qu'est le vrai débat, parce que je me demande, à travers la controverse et la discussion, est-ce que ce qui est recherché par ces groupes militants ou ces différentes communautés, c'est une évolution naturelle de l'éthique et du regard critique sur certains artistes comme par exemple Balthus, ou est-ce que ce qui est voulu, c'est que le politique prenne l'ascendant pour dire quelle éthique est acceptable, quelle représentation on a droit de citer? Tu évoquais précédemment la controverse au MoMA à New York, et pour moi c'est un cas d'école assez intéressant. Mia Merrill, la jeune femme qui a initié la pétition demandant le retrait de Thérèse Raymond de l'exposition, elle ne demandait pas seulement le retrait de cette œuvre, elle demandait également une contextualisation, l'ajout d'un écriteau pour pouvoir donner plus d'éléments sur cette œuvre. Je m'interroge parce que demander un retrait d'une œuvre, cela revient à demander à une institution de décider sur les bases morales que tel tableau ou tel artiste ne doit pas être montré. Bien sûr, les institutions culturelles le font déjà. Les musées font des choix lorsqu'ils préparent des expositions ou des rétrospectives. Mais à partir du moment où le MoMA a choisi de montrer Thérèse Raymond, on peut estimer qu'il n'y voyait aucun problème à ce que ce tableau soit vu du grand public. Qu'un regard extérieur vienne interpeller l'institution pour dire scandale, vous avez tort de montrer ce tableau parce que moi, ce que j'y vois est très problématique. Selon moi, c'est une injonction politique qui mérite qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse là-dessus, parce que elle est potentiellement, comme toutes les injonctions, porteuse d'une possibilité de dérive.
Je pense qu'on pourrait déjà commencer par essayer de qualifier cet insupportable dont tu parlais, Lloyd, parce que précisément, me semble-t-il, c'est ce que Balthus visait en réalité, puisque dès le début, finalement, il savait que ces toiles allaient faire scandale, il savait que ça allait choquer. Il savait qu'il y aurait des appels à la censure, et donc ça, c'est pas nouveau. Alors là, effectivement, il y a le mouvement MeToo qui a encouragé notamment cette pétition. Mais en fait, déjà dans les années 30, et il en parle d'ailleurs dans sa correspondance, déjà à l'époque, sa peinture faisait polémique. Et donc, ce qui se passe en ce moment, en fait, c'est exactement le but qu'il visait. Et d'ailleurs, on peut ici se poser une question. Est-ce que le rôle qui est attendu d'un artiste, finalement, est-ce que c'est pas au fond de choquer le spectateur, autrement dit, d'essayer de le réveiller? Et ça, c'est une conception de l'art qu'on retrouve notamment dans la correspondance que Balthus entretient avec sa première femme, Antoinette de Vadeville. Voilà, pour lui, c'était notamment un de ses objectifs, et c'est intéressant de voir comment il en parle. En fait, il décrit les êtres humains autour de lui comme des automates, comme des pantins. Ce sont ses termes, hein, des pantins presque entièrement mécanisés, dit-il, qui n'ont plus rien de vivant. Et il écrit au secours, c'est tous des mannequins, des morts. L'homme est enterré sous une couche d'asphalte. Et voilà. Et donc lui, ce qu'il vise par sa peinture, c'est de venir bousculer tout ça et finalement de réveiller l'instinct qui sommeille en chacun de nous. Et il précise que selon lui, aujourd'hui, il faut hurler très fort si l'on veut encore se faire entendre. Et que pour se faire entendre, eh bien, il faut des choses très violentes. Un peu plus loin dans sa correspondance, il parle d'hypocrisie et il dit qu'il s'attend à ce que certaines personnes crient au scandale ou à la censure. Alors que finalement, dit-il, s'il y a une gêne, c'est parce que ma peinture leur révèle quelque chose d'eux-mêmes, bien que ce ne soit pas toujours un phénomène conscient. Donc, me semble-t-il, ici, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement parfois une mission un peu commune entre l'artiste et le philosophe? Je pense à ça, puisque le philosophe Socrate considérait qu'effectivement, sa mission était de venir un peu torpiller les gens, les déstabiliser. Pour finalement les faire accoucher de leurs réflexions ou pour les faire accoucher d'eux-mêmes. Alors, par ailleurs aussi, pour en revenir aux féministes dont tu parlais, Lloyd, qui effectivement se disent choquées par ces représentations ambiguës de jeunes filles. Il y a un écrivain auquel je pensais qui est intéressant à voir ici, puisque le mot qui revient souvent, hein, c'est qu'elles se sentent offensées par ces toiles. Mais effectivement, à ce moment-là, s'il fallait supprimer tout ce qui peut offenser, où est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'effectivement, voilà, personne n'oblige quiconque à regarder les tableaux de Balthus. Alors, je dis pas que c'est la position que je défends, mais c'est celle du philosophe Ruven Augien, qui, je trouve, est intéressante. Lui, il défend la liberté d'offenser dans l'art. Et il distingue l'offense du préjudice en disant que le préjudice, lui, pour le coup, est condamnable, hein, qu'il s'agisse d'un préjudice physique sur le corps de l'autre ou lorsque on porte atteinte au bien matériel de quelqu'un ou au droit de quelqu'un. Mais par contre, l'offense, cela, il défend ce droit, hein, il défend la liberté de l'artiste de pouvoir offenser. Et encore une fois, l'offense devant ici être distinguée du préjudice.
Moi, je voulais revenir sur la distinction entre préjudice et offense. notamment parce que tu as évoqué MeToo et les mouvements féministes. Je voudrais par là en fait qu'on aborde la question des représentations et de leur impact. En évoquant le cas de Balthus, tu disais qu'il faut qu'on qualifie ce qui gêne, qu'il faut qualifier cet insupportable. Je crois qu'il y a deux choses principalement. D'abord, il y a la question de la pédophilie, parce que pour dire les choses clairement, il y a un soupçon de pédophilie chez Balthus, du fait que ses modèles sont très jeunes, représentés de façon très érotisée, et qu'elles sont dans une forme de passivité, qu'elles semblent essentiellement à la disposition de son regard à lui et au service finalement de sa vision de la beauté. Alors, bien sûr, les tableaux de Balthus sont sublimes. C'est un peintre qui maîtrise les grands aspects de la technique picturale, mais ces modèles semblent toujours à l'état d'objet. Et c'est une représentation qui, pour beaucoup de femmes, depuis très longtemps d'ailleurs, est insupportable, encore plus aujourd'hui, parce que pendant longtemps, finalement, les femmes ont toujours été représentées comme des objets, et non comme des sujets. Et donc, pour beaucoup de femmes, on peut le comprendre, bah, c'est quelque chose qui, finalement, peut gêner, et je dirais même, pour aller plus loin, et rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, peut offenser. Et donc on en revient à la question du préjudice et de l'offense. Je pense pour ma part que pour résoudre cette dichotomie, la solution réside sans doute dans quelque chose que tu évoquais pendant la préparation de cette émission. Tu suggérais l'idée de donner accès à la parole, aux témoignages, aux identités des jeunes filles qui sont représentées par Balthus. Ça permet, à mon sens, de les faire passer de l'état d'objet à l'état de sujet, parce que finalement, le spectateur ou la spectatrice aurait une perspective, une forme de distance par rapport à l'image, quelque chose qui permet de regarder différemment les tableaux qui sont exposés. Si on prend l'exemple de Thérèse Blanchard, on pourrait se dire que si on a accès à son témoignage sur les séances de pose, cela peut nous emmener à regarder différemment le tableau de la Discorde, Thérèse Révran, et donc à prendre de la distance avec l'image qu'on a en face de soi. On aurait à ce moment le regard du peintre qu'on croiserait avec l'expérience qu'elle a vécue en posant pour lui. Et je crois que ça nous emmène directement au titre de cette émission, le regard des féministes en opposition au regard de Balthus. C'est la question du droit à la parole finalement, de l'accès à la parole et à l'expérience de ces jeunes femmes. C'est d'ailleurs quelque chose qui a déjà été fait auparavant, puisque il y a eu une exposition au Met à New York en 2013-2014 qui donnait justement à voir, à côté des images, des détails sur les déroulés des séances, sur les éléments biographiques des modèles. Et je pense que voilà, c'est le genre de parti pris qui permet aux spectateurs finalement d'être rassurés. Cependant, il faut souligner que ça a également des limites. Ce type de procédé aussi restreint l'esprit critique. En général, lorsqu'on a trop d'éléments contextuels, bah, ça, on a trop de distance par rapport à l'image et on ne porte plus finalement un regard critique direct par rapport à ce qu'on voit. Et donc, il faut être vigilant sur le risque de limiter le questionnement et donc de clore finalement les débats avant même qu'il n'ait commencé.
En fait, d'un point de vue féministe, hein, on peut être critique de plusieurs choses dans l'œuvre de Balthus. Donc évidemment, hein, déjà on en a parlé, la façon dont ces très jeunes filles sont représentées, ce qui d'ailleurs pose aussi d'autres questions qu'on n'a pas encore traitées. Mais voilà, une des grandes critiques qui demeure encore aujourd'hui, c'est de dire que ce genre de toile pourrait être criminogène, au sens où elle pourrait inciter à la pédophilie. Voilà. Voilà, donc ça c'est une première critique qui est assez récurrente dans le discours féministe. Et puis par ailleurs, là aussi on en a parlé, mais on peut aussi évidemment donc critiquer tout ce processus de fabrication en amont. Et notamment, tu parlais là, du fait que ces très jeunes filles sont représentées non pas comme ne sont pas représentées comme des sujets. Et si on s'intéresse ici à ce processus de fabrication où Balthus s'est retrouvé dans son atelier avec elle, voilà, même si a priori il n'y a pas eu de plainte de la part des modèles, qu'on a aucune indication qu'il soit passé à l'acte. Malgré tout, quid du consentement de ces jeunes filles à effectuer ces séances de pose, a fortiori si ces jeunes filles sont issues de milieux pauvres et qu'il y a des enjeux financiers derrière. Voilà, donc dans quelle mesure est-ce qu'elles ont vraiment donné leur consentement, voilà, ne serait-ce qu'à poser en partie dénudées devant un homme adulte. Voilà, et finalement, même si Balthus n'est jamais passé à l'acte, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même s'interroger ici sur l'existence d'une forme de préjudice, ne serait-ce que dans le regard, le regard que Balthus posait sur ses modèles pendant des heures et le plus souvent d'ailleurs pendant des années. Voilà. Alors, j'ai pas la prétention d'affirmer qu'il s'agirait ici d'une forme de préjudice. Ce serait évidemment plutôt au modèle de le dire, mais je soulève juste la question. Voilà. Et aussi, il y a ce que tu disais là sur le fait que ces modèles sont dans une forme de passivité. Moi, ça m'a fait penser à un film qui est sorti récemment et qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, un film de Céline Sciamma. Et là, pour le coup, dans cette histoire, le peintre et son modèle, alors déjà, ce sont deux femmes, et y a une relation vraiment d'égalité entre les deux, avec une collaboration, un dialogue qui se noue entre les deux, et puis toute une connivence intellectuelle qui se construit au fil de l'histoire. Voilà, et donc là, pour le coup, on ne se retrouve pas dans le... On n'est pas dans le schéma de la domination masculine de l'homme adulte qui a en face de lui une muse passive, encore enfant, etc. Voilà, donc finalement, ce schéma dans lequel on n'a qu'une seule voix et puis pas de dialogue. Bon, alors, mais toutefois, par rapport à ce que je viens de dire, on pourrait, il me semble, quand même nuancer un peu... cette absence de dialogue, au sens où, et ça c'est une idée que développe Philippe Guton dans son ouvrage Balthus et les jeunes filles, finalement selon lui, c'est la rencontre entre le peintre et son modèle qui permettrait l'inspiration. Et finalement c'est de cette forme de dialogue, c'est de cette interaction que naît entre guillemets le tableau. Donc autrement dit, le couple peintre-modèle donne naissance entre guillemets au tableau. Voilà, donc en un sens, on pourrait parler d'une co-construction avec finalement un rôle actif de la part des deux protagonistes, peintre et modèle. Et à ce propos, Philippe Guton, qui par ailleurs est psychanalyste pour adolescents, il fait un parallèle intéressant entre la séance de pose et la séance de thérapie. Alors dans le cas de la séance de thérapie, l'adolescente patiente parle en mots là où elle parlerait en images dans la séance de pose. Sauf que effectivement, dans le cas de la séance de thérapie, l'objectif c'est quand même que le ou la patiente parvienne à se libérer au moins partiellement de ce déterminisme, qu'elle puisse trouver des alternatives à ce qui est de l'ordre, disons, de la fatalité. Donc, dans la séance de thérapie, l'objectif, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'émancipation, alors que dans ces séances de pause, alors peut-être qu'il peut y avoir, qu'il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre d'une émancipation, disons par chance, mais enfin l'objectif premier, c'est quand même la création d'un tableau.
Je trouve assez intéressante l'idée que tu évoquais du psychanalyste Philippe Guttant, sa théorie de la co-construction entre le peintre et le modèle. Effectivement, je n'y avais pas pensé sous cet angle-là. Cependant, je pense que, comme tu l'évoquais dans ton propos précédent, je pense qu'on doit s'interroger sur, on va dire, l'idée d'un préjudice, ne serait-ce que dans le regard, en l'occurrence celui du peintre, parce que, selon moi, le regard peut être porteur d'une forme d'emprise. Je pense que le regard parle, le regard touche, le regard blesse, le regard déshabille, le regard violent également. Et donc, je pense que c'est une question tout à fait légitime.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Lloyd, finalement, il me semble que moi, ce qui me dérange, c'est pas tant ce regard que Balthus pose sur ces jeunes filles et qui ensuite donne lieu à cette création picturale. Finalement, ce qui me questionne et qui profondément me met mal à l'aise, c'est plus la question de savoir dans quelle mesure ces jeunes filles étaient finalement en capacité de consentir au fait de recevoir sur elles, sur leur corps, ce regard-là. Et j'ai le sentiment quand même que c'est un peu comme si cette question de leur consentement avait été un peu écartée, enfin, du moins que ce n'était pas vraiment la question prioritaire et que la priorité, c'était de pouvoir révéler la beauté de la nature à travers ces peintures. Je dirais presque quel qu'en soit le prix. Et c'est la question que en fait je me pose maintenant, c'est à quel prix est cette révélation. Et en formulant cette question, je repense à ce propos à un roman que Philippe Guttant cite d'ailleurs aussi dans son ouvrage sur Balthus. C'est un roman avec lequel il fait un parallèle assez troublant. Il s'agit du roman Le Parfum, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma, dans lequel un jeune homme veut recueillir le parfum des jeunes filles parce qu'il pense que dans ce parfum serait caché le secret de l'amour entre les hommes et que ce parfum aurait le pouvoir de faire tomber amoureux. Et donc, pour pouvoir prélever ce parfum et pour pouvoir donc le partager, le révéler au monde, cela nécessite de tuer ces jeunes filles, les tuer sans les violer. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi le parallèle que Philippe Guttant cherchait ici à faire entre ce roman et l'œuvre de Balthus, et je ne sais pas d'ailleurs si ce parallèle est pertinent ici, mais disons que moi, il me trouble, et que si j'essaye de formuler un peu ce trouble, en fait, je me demande dans quelle mesure ces jeunes filles n'auraient pas été instrumentalisées pour une cause qui, par ailleurs, peut être tout à fait louable, voire pourquoi pas éthique, mais instrumentalisée quand même. Alors, si on essaye de préciser un peu cette finalité éthique, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de, chez Balthus, une volonté quand même de donner à voir ce que peut être ce passage de l'adolescence au féminin, voire même de défendre ce passage, de donner à voir ce passage lorsque ça se passe bien, c'est-à-dire lorsque les pulsions de vie l'emportent au final sur les pulsions de mort, lorsque la créativité l'emporte sur la mélancolie. Voilà, donc de défendre cette métamorphose-là, et à l'inverse, de mettre en garde contre la situation opposée, c'est-à-dire comme je pense ici à ces toiles représentant la victime. Donc autrement dit, lorsque finalement le passage n'a pas lieu, lorsque l'adolescente est dans une impasse, et dans le tableau la victime, on voit effectivement une jeune fille totalement seule, qui semble presque morte et qui est dans une ambiance très glauque. Voilà, donc sans doute que, enfin, en tout cas selon moi, on peut déceler ici une visée éthique chez Balthus dans sa démarche artistique qui serait peut-être de donner à voir et aussi peut-être même de défendre ce risque qu'il y a pour une petite fille à devenir une femme. Et du moins, c'est pour ma part cette hypothèse qui souhaiterait défendre ce risque pour une petite fille à devenir une femme. C'est de cette façon, moi, que son œuvre me parle. Voilà. Mais malgré tout, même si la visée est éthique, les moyens employés, eux, est-ce que ces moyens étaient véritablement éthiques? Et il me semble qu'on peut s'interroger quand on lit, par exemple, le témoignage de Anna Wally, donc qui était une de ses dernières modèles et qui a posé pour Balthus entre l'âge de ses 8 ans et ses 16 ans. Et je trouve que son témoignage questionne. Alors je vous le lis, elle dit je sais que mes parents m'ont demandé mon avis, mais je ne me souviens pas avoir réfléchi à ma réponse. J'ai dit oui et je suis allée poser pour la première fois quelques jours plus tard.
J'aimerais qu'on termine sur ce dernier point que je trouve très intéressant, car tu évoques la question non pas de l'œuvre finie, mais plutôt celle du processus de fabrication de l'œuvre. Je pense effectivement que là où on ne peut pas faire l'économie de l'éthique, c'est justement dans ce processus de fabrication, parce qu'il y a des interactions qui se jouent avec d'autres personnes. Et lorsqu'il y a des interactions humaines, bah, naturellement, l'éthique devient une question centrale. On ne peut pas y échapper. Et là, ça me semble compliqué qu'il y ait à ce point un silence de ces modèles. Et comme il n'y a pas de trace écrite, il n'y a rien. C'est ce flou qui demeure qui, effectivement, quand on voit les tableaux, crée une forme de malaise.
Oui, alors je suis d'accord avec toi, Lloyd, mais finalement, il me semble qu'il n'y a pas totalement un silence, puisqu'en fait, voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu quand même quelques témoignages, notamment d'Anna Wally, hein, dont je parlais précédemment. Des témoignages aussi d'autres modèles, notamment Michelina, qui par exemple disait que lors des séances de pose, Balthus n'imposait rien. Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de modèles qui parlent de leur expérience. On peut prendre par exemple Anna qui racontait que qu'il y avait effectivement quelque chose d'indescriptible dans ce qu'il a lié à Balthus. Et elle écrit « Il m'avait demandé de le tutoyer, je n'ai jamais pu, mais, dit-elle, je me sentais proche de lui, à mi-chemin entre un grand-père et un ami. » Bon, au final, il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que... en tout cas, moi, je n'aurais pas la prétention de dire, d'affirmer si ces séances de pause ont pu être bénéfiques ou non pour ces jeunes filles. C'est à elles de le dire, mais selon moi, il y a quand même un questionnement qui demeure sur leur degré de consentement, sur leur degré de participation et sur toutes les dominations qui finalement pouvaient peser sur elles et dominations qui ne leur donnaient pas la possibilité de choisir réellement si elles voulaient ou non poser à moitié dénudée à l'âge de 8 ans devant un homme adulte. Et alors, pour finir, il me semble qu'on peut... On peut ici revenir sur le rapprochement intéressant que fait Philippe Guton entre donc ces deux expériences, celle de la séance de pause et puis celle de la séance de thérapie. Lui parle d'une forme de pédagogie amoureuse qui serait au cœur de la séance de pause. Donc pédagogie amoureuse, alors non pas au sens d'une séduction sexuelle, mais dit-il au sens de l'art de donner à l'adolescente l'occasion de reconnaître son destin par le fait qu'elle se transforme en dessin. Ce sont les termes de Philippe Guton. Alors effectivement, comme dans la séance de thérapie, il y a dans la séance de pause quelque chose de l'ordre d'une mise à nu qui est susceptible d'avoir lieu. Et aussi dans la séance de pause comme dans la séance de thérapie, quelque chose de l'ordre d'un transfert du modèle vers le peintre et potentiellement d'un contre-transfert, donc du peintre vers le modèle. Mais ici, il me semble que la question à se poser, c'est de savoir dans quelle mesure Balthus maîtrisait-il cet art du contre-transfert.
Merci Anne. Nous allons conclure ce premier épisode par un texte du poète Antonin Artaud, car au-delà des controverses et des questionnements éthiques et politiques, l'art de Balthus nous donne à voir l'essence des choses. Il est intangible, il recherche l'invisible derrière les apparences, parfois il nous plonge dans une angoisse existentielle. La victime, la chambre, Thérèse sur une banquette, toutes ces œuvres peuvent faire vibrer en nous cette commune humanité, réveille des questions qui agitent l'homme depuis toujours. Antonin Artaud. Je ne sais pas pourquoi la peinture de Balthus sent ainsi la peste, la tempête, les épidémies. Mais elle ramène au jour quelque chose d'une époque électrique de l'histoire. Un de ces points où le drame se noue. Quelque chose d'un de ces creux atmosphériques appelés le poteau noir et où le navire qui avance est comme bu. Et il n'y a rien. Les paysages sont inertes et calmes. Les personnages sont ceux d'un grand drame qui court, mais surpris dans les côtés les plus anecdotiques de leur vie. Ligeia, Morella, Eleonora, Bérénice, devant leur table de toilette. Lady Macbeth se curant les angles avant son tout proche au quai sanglant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce peintre, Balthus, a quelque chose de plus que la peinture à dire, et que ce quelque chose, par-dessus sa peinture, si terriblement stricte, rigide, volontaire, fidèle, exacte, scrupuleuse, méticuleuse et honnête, puis la tombe, les catacombes, l'obituaire, l'antique ossuaire, le cercueil. De combien de cadavres tombés des limbes avant d'être nés, de corps de vierges non utilisés, les nus de Balthus sont-ils faits? Rien d'obscène en eux, mais un malaise particulier. On ne peint pas avec un vérisme si poussé des nus surpris dans des attitudes aussi curieusement instantanées pour les abandonner là, au fond d'une toile, devant laquelle combien de pères dieux encore défileront avant quoi. J'aurais presque envie de dire, si je ne craignais pas l'enflure, l'emphase, avant l'heure du jugement. Quoique peut-être encore que Balthus ne veuille pas aller si loin. Et pourtant, le grand problème, il le frôle.
Considérations inactuelles, la discussion autour de l'art et la philosophie de la Fondation Eke Homo, aujourd'hui consacrée à Balthus et les féministes, regards croisés. Je suis toujours Lloyd Andy Oyenamono et j'étais accompagné de Anne-Caroline Close-Verdreau, responsable de l'Observatoire à l'espace éthique d'Île-de-France, qui se trouve être une amie très chère et férue de philosophie. Vous avez entendu un extrait de La jeune fille et la mort de Schubert, interprété par le Quatuor de musique de chambre de Vienne. La musique du générique est un extrait de West Africana de Hicham Chahidi. L'ensemble des références citées pendant l'émission sont à consulter sur le site fondationekehomo.fr. Je me réjouis d'avance de vous retrouver avec mon invité pour notre prochain podcast, Rock Rap, quintessence de la révolte.